Farafina.
Farafina.
Terre de soleil.
Farafina.
Farafina.
Un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso.
Le suspense demeure total en République démocratique du Congo qui attend une annonce majeure à la nation du président Félix Tshisekedi selon l'ambassade des États-Unis dans ce pays. En Guinée, le président Alpha Condé est presque assuré d'un troisième mandat alors que le résultat de 37 des 38 districts électoraux le place en tête du scrutin présidentiel de dimanche. L'Union des syndicats du Tchad se joint à plusieurs partis et organisations qui refusent de prendre part au Forum national inclusif convoqué par le président Idriss Déby. Bonjour à tous et merci de vous connecter sur notre site internet www.channelafrica.co.z pour suivre Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Catherine Maleka est à la technique et voici à présent le bulletin d'information présenté par Michel Kofi.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition d'information. Au Nigeria, les forces de sécurité ont repris vendredi peu à peu le contrôle de la capitale Lagos où l'on pouvait entendre encore des coups de feu sporadiques après 3 jours de violence et de contestation populaire dans le sud du pays. Dans les quartiers populaires, la tension est redescendue après la répression menée mardi contre des milliers de manifestants pacifiques par des militaires et la police. Les quelques organisations ou célébrités qui ont porté le mouvement ont appelé au calme. L'ONG Amnesty International, qui a recensé au moins 12 morts après le mardi sanglant, a demandé vendredi l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante sur la tuerie du péage de Lekki. De son côté, le président nigérian Muhammadu Buhari n'a fait aucune mention de cette répression sanglante dans son allocution de jeudi soir et a invité la communauté internationale qui a condamné en masse les violences à attendre d'avoir tous les éléments entre les mains avant de juger. Rendons-nous à présent en Guinée où la commission électorale indépendante a poursuivi la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Jeudi, la quasi-totalité des résultats donnait le chef de l'État Alpha Condé largement en tête devant celui d'Alain Diallo. Selon des résultats préliminaires publiés par la Commission électorale nationale, Alpha Condé l'emporte avec plus de 2,4 millions de voix sur environ 3,9 millions d'exprimés, distançant celui d'Alain Diallo environ 1,2 million de suffrages. Sur 17 circonscriptions de l'intérieur, en plus des 30 sur 38 déjà communiquées, Alpha Condé obtient une confortable majorité absolue dès le premier tour. Toutefois, aucun vainqueur n'a été déclaré officiellement. La situation politique reste toujours tendue alors que le chef de l'opposition a accusé le pouvoir de lui voler à chaque fois la victoire et est toujours encerclé par la police. Au moins 9 personnes ont été tuées cette semaine dans les manifestations entre partisans de l'UFDG et les forces de sécurité à Conakry. Direction le Burkina Faso où le Conseil constitutionnel a annoncé jeudi que 13 candidats dont le président Roch Kabore et les principaux favoris ont été retenus pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, Eddy Komboigo, candidat de l'ancien parti au pouvoir sous l'ex-président Blaise Compaoré et Kadré Désiré Ouédraogo, ancien premier ministre de Blaise Compaoré, figure également sur la liste rendue publique, ainsi que l'ancien premier ministre sous la transition, le général Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada. Des experts de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine ont estimé mercredi, après une semaine d'audit, que le fichier électoral du Burkina Faso était fiable pour des élections en confiance. Restons toujours dans le cadre des élections présidentielles. L'opposition ivoirienne a rejeté jeudi les concessions proposées par le pouvoir d'Alassane Ouattara sur une réforme de la commission électorale pour mettre fin à son boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. L'opposition considère que les propositions du pouvoir ne correspondent pas à ses demandes. Les candidats de l'opposition maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile et réitèrent leur demande de médiation internationale. À quelques jours de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire est plongée dans une violente crise préélectorale qui a fait une vingtaine de morts depuis le mois d'août. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit inquiet de la situation tendue dans le pays. Et enfin, pour terminer, l'armée malienne est arrivée jeudi à Farabougou, au centre du pays. Cette localité est assiégée depuis deux semaines par des hommes armés, généralement présentés comme des djihadistes et dont le sort suscite un intérêt considérable dans le pays en guerre. L'armée malienne n'a pas dit si le blocus de la localité était depuis levé ou non. Farabougou constitue un test pour les nouvelles autorités de transition installées en septembre dernier par les militaires qui ont déposé l'ancien président élu Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous retrouve dans quelques instants pour la page sportive.
Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, @FrenchFarafina ou bien @ChannelAfrica1.
Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, les initiatives en faveur d'une élection apaisée et les appels à la paix et à la cohésion sociale se multiplient au moment où le pays vit des heures chaudes à seulement une semaine du scrutin présidentiel. Ces engagements pour la paix sont pour la plupart à inscrire à l'initiative des associations et organisations de la jeunesse qui se tiennent à distance des partis politiques, des associations dont le message est essentiellement porté sur la non-violence, la cohésion et le vivre ensemble paisible. Depuis Abidjan, Sélé Marius Kouassi nous fait part de ces initiatives.
C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le quartier Carrefour de la ville de Diokoué, qu'a démarré l'une de ses caravanes de campagne. Diokoué est un endroit symbolique pour un appel à la paix en ce moment de troubles préélectoraux. En effet, le quartier Carrefour de la ville de Diokoué a payé un lourd tribut à la crise post-électorale de 2010-2011. Les affrontements entre groupes ethniques au lendemain de la proclamation des résultats du second tour des élections présidentielles de 2010 ont occasionné au moins 800 morts dans ce quartier, selon les chiffres des Nations Unies et des organisations internationales humanitaires, dont la Croix-Rouge. Pour les organisateurs des campagnes de paix, notamment celles qui partent de la ville de Diokoué pour parcourir tout le pays, il est plus qu'impérieux d'engager les populations à s'impliquer dans la construction et le maintien d'une paix durable. Déjà, elles initient des rencontres de proximité avec les populations et des échanges au cours desquels une attention particulière est accordée aux jeunes et surtout aux femmes porteuses de changements apaisés. Écoutons à propos Serge Coléa et Blanchardot, initiateurs de campagne de paix.
Nous sommes en campagne pour la Côte d'Ivoire, pas pour un candidat. Nous venons dire à nos parents que nous devons résolument nous engager dans la paix. Il n'y a pas meilleure façon de rendre service à ce pays que de parler de paix. Quand deux personnes parlent de manifestations violentes, il faut que 10 personnes parlent de paix.
Nous voici à nouveau à la veille des élections. Le monde nous regarde. Plus que jamais, disons non à l'intoxication des réseaux sociaux. non à la manipulation et à la violence.
Des jeunes et des femmes participant à cette caravane donnent la pertinence des dites caravanes au vu de l'actualité électorale en cours.
S'il s'agit de paix, s'il s'agit de cohésion, quel que soit l'heure, quel que soit le moment, nous sommes toujours prêts pour vous accompagner.
Que plus jamais Carrefour soit le champ des violences encore. Nous, en tant que leaders, nous faisons notre devoir pour qu'il y ait la paix.
Je lance cet appel aux hommes politiques et surtout à la jeunesse. Il faut qu'on dialogue ensemble, il faut qu'on communique ensemble. Nous sommes tous les enfants de ce pays, les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc il ne faudrait pas qu'on parte à la guerre, il ne faudrait pas qu'on parte à la destruction de ce pays-là. Il ne faudrait pas que ça arrive. Non, il faut qu'on parte de l'avant.
Depuis les années 90, les échéances électorales en Côte d'Ivoire ont souvent été une occasion d'expression forte de violence, à l'exception du scrutin présidentiel d'octobre 2015. Une violence connue aussi bien des populations que des acteurs politiques. Une violence qui prend ses racines dans divers paramètres historiques, politiques et socio-économiques. Si le cycle de violence qui a fortement marqué la Côte d'Ivoire en 2011 est né au lendemain des élections de 2010, de la contestation des résultats de ces élections notamment, le scrutin présidentiel qui aura lieu dans juste une semaine, lui, est déjà marqué par des actes de violence dans plusieurs villes. Ces actes de violence qui secouent en ce moment la Côte d'Ivoire sont nés après l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition pour manifester sa non-acceptation de la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Une candidature qu'elle juge anticonstitutionnelle, car elle ouvrirait la voie à un troisième mandat à Ouattara. Le camp Ouattara, lui, affirme qu'il s'agit plutôt d'un tout premier mandat d'une nouvelle république. La prévention de la violence électorale invite à travailler sur les périodes de son expression, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections. C'est bien à cela que s'attellent les initiateurs des campagnes caravanes de paix qui œuvrent à instaurer la confiance entre toutes les parties prenantes pour un jeu électoral pacifié. La période électorale qui court depuis le début des campagnes électorales jusqu'à la proclamation des résultats est une période assez sensible. Et durant cette période, l'administration électorale a une grande responsabilité. Calmer le jeu électoral, inspirer la confiance auprès de tous les acteurs, mais aussi et surtout, inviter les citoyens, les électeurs, à faire preuve de civisme et à se garder de tout acte violent. Cet objectif est un champ assez vaste qui lui est impossible de défricher tout seul. En cela, les initiatives communautaires visant l'apaisement et la cohésion sociale sont à saluer et surtout à louer. Depuis Abidjan, c'est les Marius Kouassi pour Canal Afrique.
Rendons-nous à présent en Guinée où la société civile a constaté des anomalies sur les résultats dans plusieurs circonscriptions électorales alors que le résultat presque complet de la présidentielle de dimanche place en tête le président sortant Alpha Condé. Selon les chiffres communiqués jeudi par la Commission électorale nationale indépendante, les leaders du parti du Rassemblement du peuple de Guinée récolteraient plus de 2,4 millions de voix sur 3,9 millions de bulletins exprimés dans les 17 circonscriptions de l'intérieur. Son principal adversaire, Selou Danlène Diallo, serait crédité d'environ 1,2 million de suffrages. La tension reste toujours vive donc ce vendredi dans le pays, alors que l'on signale la coupure de l'Internet depuis le matin. Une situation que déplore Marie-Madeleine Diobaté, la coordinatrice du FNDC à l'international.
Je n'espère pas qu'on aille vers la guerre civile, mais aujourd'hui, on n'arrive pas, les deux parties en présence n'arrivent plus à dialoguer, n'arrivent plus à discuter. Le dialogue est rompu. Donc si le dialogue est rompu, que chacun campe sur ses positions et que aujourd'hui ce problème maintenant est en train de tourner vers un problème ethnique, c'est-à-dire la confrontation entre deux communautés, alors à ce moment-là, on peut dire que la Guinée, sa chemise glisse lentement mais sûrement vers la guerre civile. Donc la priorité aujourd'hui, ce n'est pas de parler de M. Alpha Condé ou de M. Selou Danlène Diallo. La priorité aujourd'hui, c'est de ramener le calme dans le pays afin que la Guinée, comme je vous l'ai dit, ne sombre pas dans la guerre civile, ce qui ne serait profitable à personne. Les Guinéens, là, je lance un appel aux Guinéens, aux femmes guinéennes, aux jeunes Guinéens, en leur disant que la Guinée est notre bien commun, que les hommes, ces hommes politiques partiront et la Guinée demeurera. Les hommes aussi partiront. Donc, les Guinéens doivent essayer de se fédérer. Les Guinéens doivent tout faire aujourd'hui pour éviter le bain de sang, pour éviter la guerre ethnique.
Vous avez dit que c'est la rupture du dialogue qui pourrait amener à la guerre civile en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement rétablir ces dialogues alors que les deux camps se pointent mutuellement les doigts par rapport à cette crise qui s'est installée au pays?
Je pense qu'il faudrait avoir une mission d'observation qui vienne et qui discute avec eux. Mais cette mission d'observation, maintenant, je pense que la CEDEAO a montré ses limites et qu'elle n'a pas été capable d'anticiper les problèmes qui arrivent aujourd'hui. La CEDEAO, aujourd'hui, pour moi, n'a pas la légitimité de discuter. Donc, il nous faut aujourd'hui quelqu'un qui viendra, qui discutera avec le camp Condé et qui discutera avec le camp de Sélou Dalin pour ramener déjà la paix et puis pour discuter de l'avenir de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais justement, madame, ne croyez-vous pas que ces élections étaient le seul moyen de départager les deux camps parce que c'est le peuple qui devrait se prononcer à ce sujet? En dehors de ces élections, quelle est la voie qui peut justement ramener à l'unité nationale?
Je pense que ces élections, on est parti déjà sur le mauvais pied en allant à ces élections. Comme vous le savez, nous nous sommes battus pour ne pas que ces élections aient lieu puisque nous étions engagés contre un troisième mandat, contre le changement de la Constitution. Donc je pense que déjà, en allant aux élections, on préparait déjà on savait déjà ce qui allait arriver. La majorité des partis politiques qui se retrouvent dans le FNDC ont refusé de participer justement aux élections. Je pense que la CEDEAO n'a pas fait son travail. Parce que le rôle normalement de la CEDEAO, c'est d'anticiper les conflits dans la sous-région. Le rôle de la CEDEAO, c'est d'assurer la paix et la stabilité dans la sous-région. Le rôle de la CEDEAO aussi, c'est de veiller à ce que l'alternance démocratique se fasse. Et je pense que la CEDEAO n'a pas été suffisamment ferme. Et donc aujourd'hui, on voit les problèmes que nous avons dans notre pays. La CEDEAO aujourd'hui, pour moi, n'est pas capable d'éviter en fait que la Guinée ne brûle. Je pense peut-être qu'il faudra une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies si nous-mêmes, entre nous, Guinéens, nous n'arrivons pas à trouver la solution.
Situation tendue en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, le FCC de l'ex-président Joseph Kabila, menace de quitter la coalition en optant plutôt pour la cohabitation. Cela fait suite à la prestation de serment mercredi dernier devant le président Félix Tshisekedi des trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Le Front commun pour le Congo avertit qu'il ne va pas reconnaître tous les actes que poseront ces juges. Pendant ce temps, un discours du président Félix Tshisekedi est très attendu ce vendredi à partir de Kinshasa, d'où nous appelle notre correspondant sur place, Jean-Noël Bamwindi.
Dans sa déclaration jeudi, à l'issue de la réunion de la conférence des présidents, le Front commun pour le Congo regrette ce qu'il qualifie de choix délibéré de violer la Constitution à travers un passage en force. La plateforme politique de l'ex-président Joseph Kabila campe sur sa position quant à l'illégalité de la nomination des juges qui ont prêté serment mercredi et refuse de les reconnaître. Tout en demandant à la population congolaise de rester mobilisée, le FCC menace de quitter la coalition au pouvoir en optant plutôt pour la cohabitation, une déclaration lue par Didas Pembe, cadre de ce regroupement politique.
Ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays, alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investi en lui octroyant la majorité à l'Assemblée nationale d'une part et des prescrits de la Constitution d'autre part. Le FCC prend à témoin la population et lui demande de rester mobilisée afin de faire barrage à toute tentative tendant à liquider l'héritage d'un combat commun en vue de l'instauration des institutions démocratiques dans notre pays. Combat couronné par la première alternance pacifique du pouvoir.
La situation politique reste donc tendue au sein de la coalition FCC cache au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi doit s'adresser à la nation ce vendredi dans la soirée. Un discours très attendu par la population dont certains habitants de Kinshasa se sont confiés à Canal Afrique pour parler de leurs attentes.
Nous attendons qu'ils puissent dissoudre le Parlement parce que le mariage entre FCC et CACH, ça marche pas très bien.
Nous savons que tout Congolais ne veut pas de cette coalition qui vient suyer la personne du président Félix Tshisekedi. Nous voulons que le président prenne de bonnes décisions. La démission de M. Ilunkamba, je pense que si le président décide de demander sa démission et de nommer un informateur, ça sera une bonne solution pour le pays.
Pour moi, personnellement, j'attends qu'il puisse dissoudre le Parlement, c'est tout. Parce que cette assemblée-là n'est pas pour le peuple. Il travaille pour une seule personne, qui est Kabila. Je préfère assez que ce Parlement-là puisse se dissoudre. Quand on a déjà dissous le Parlement, alors le Premier ministre aussi est partant, parce qu'il est émanant de cette assemblée.
Tous les travaux qui sont en train de se passer dans le pays, ce n'est vraiment pas important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'occuper du social de la population. La population est en train de souffrir énormément. Manque d'eau, manque d'électricité, les élèves n'étudient pas. Ce sont là les problèmes auxquels le gouvernement doit s'atteler, au lieu de s'occuper des discussions inutiles.
La République démocratique du Congo est dirigée en coalition par le CAP pour le changement, le CACH du président Félix Tshisekedi et le FCC de l'ex-président Joseph Kabila. Mais depuis le début, les relations entre les deux partenaires ont toujours été tendues. Jean-Noël Pamoisé à Kinshasa pour Canal Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, une dizaine de combattants ADF ont été tués par les éléments des forces armées de ce pays à Kwele, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Dans leur fuite après les bombardements de leur position par le FARDC, les rebelles de ADF se sont pris aux civils dans plusieurs localités du territoire de Beni. Gisèle Kaimbani nous fait le point depuis Goma.
Au moins 16 corps, dont 7 civils, ont été tués dans une série d'attaques hier et cette nuit à Beni Territoire, dans la province du Nord Kivu. Le rebelle ougandais de l'ADF, très actif dans cette région, sont les présumés auteurs de ces assassinats, réagissant après une attaque lancée par l'armée congolaise. Selon des sources sur place, l'ennemi a perdu 9 éléments à côté des 3 otages libérés suite à l'intervention de l'armée qui mène les opérations dans la zone. La société civile de cette région encourage l'armée à poursuivre ses mémélans dans la traque de l'ennemi. Selon Mme Noëlla Katonderaki, la présidence de la société civile à Beni Territoire, cette frappe des FARDC sur les positions ADF en territoire de Beni va épargner les vies des populations civiles face aux tueries de l'ADF présumée. Mais cette frappe arrive après une suspension momentanée des opérations dites de grande envergure en territoire de Beni, dénonce le député Jean-Paul Ngangondi. Ce député provincial élu territoire de Beni déplore le fait que les criminels avérés circulent librement après s'être évadés de la prison centrale de Kangwaï à Beni il y a quelques jours.
Avant même que les soldats là dont vous parlez puissent intervenir, les gens continuent à être tués dans la région de Beni, tout simplement parce que depuis un certain moment, les opérations militaires annoncées par les chefs de l'État et déclenchées par l'armée ont été suspendues pour des raisons qui restent à découvrir. Pourtant, quand l'armée était en train de travailler, il y avait déjà une accalmie et la population commençait déjà à espérer. Voilà qu'aujourd'hui, après quelques jours depuis que les bandits sont arrivés à la prison centrale de Kangwaï, sans être inquiétés, on observe encore des autres cas de tuerie de la population dans la région de Beni. Ce qui est vrai, c'est que vous savez très bien que dans la prison centrale de Kangwaï, il y avait des ADF capturés par l'armée au champ de bataille. Il y avait leurs collaborateurs capturés par nos services de renseignement. Il y avait des maïmaïs, il y avait des collabos de maïmaïs et d'autres criminels de grand chemin. Toutes ces personnes-là, ils sont partis dans la nature. Et donc, nous craignons que ce soit les ADF qui puissent profiter de cette situation pour renforcer leur effectif et continuer à semer la terreur et désolation dans la région du Beni.
Les attaques récurrentes et sporadiques des présumés rebelles de l'ADF sont signalées par-ci par-là, et les modes opératoires attribués aux ADF sont aussi signalés à Provence de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Une inquiétude pour les défenseurs des droits de l'homme qui mystifie cette nouvelle manière de tuer par armée blanche un mode opératoire jadis méconnu dans la région. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
Parlons à présent du Tchad où l'Union des syndicats du pays a annoncé qu'elle ne prendra pas part au deuxième forum national inclusif, annoncé du 29 au 31 octobre prochain pour discuter de problèmes du pays. Le deuxième forum national inclusif ne peut rien changer et ne sera qu'un remake du précédent, d'après l'Union des syndicats du Tchad. Selon son vice-président, le premier forum de 2018 n'a résolu aucun des problèmes majeurs auxquels les couches populaires sont confrontées et pire, il les a empirés. On écoute donc Younous Mahadjir qui revient sur les raisons majeures du refus de son syndicat de prendre part à ces forums.
Nous, le premier forum de 2018, nous avons aussi refusé de participer. Ce deuxième-là aussi, on nous a invité, mais nous avons préféré cette fois-ci faire karma quelque chose de beaucoup plus solennel, c'est-à-dire la déclaration de l'UST qui est celle de refuser de ne pas participer à ce forum pour des raisons évidentes qu'on a énumérées ici dans cette déclaration. Et nous avons donc dit que nous ne participerons pas pour telle raison. Je pense que vous allez les avoir dans notre déclaration. Et nous avons appelé les militants à effectivement rester vigilants pour chercher à se battre afin de défendre leurs droits à la vie par leur propre lutte. Parce que ce forum, nous avons dit qu'il n'apportera rien. Et de ce fait, ça n'est pas la peine de partir, il ne changera rien. Donc c'est pour ça que nous avons dit que nous ne voulons pas participer et nous assumons l'accusation qu'on nous dit que nous sommes politiques. Non, nous ne sommes pas politiciens, mais nous sommes de la société civile, des syndicats, même nous, notre statut dit bien, nous avons le devoir de nous prononcer sur la situation sociale, économique et politique du pays. Ce sont nos textes même que nous le disent. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est tout ça, c'est l'environnement qui nous gère, c'est la politique. Et nous, en tant que travailleurs, on défend les intérêts des travailleurs. Les intérêts des travailleurs sont mis par la politique. Si elle est mauvaise, nous ne devons pas du tout lui faire cadeau. On doit la critiquer. Pour la critiquer, nous devons nous prononcer clairement à ne pas nous mêler de ce qui ne va pas donner du positif pour notre pays et particulièrement pour notre peuple de travailleurs en général.
Est-ce que vous n'avez pas été associé aux préparatifs par rapport à ces forums nationaux inclusifs? C'est ça la plus grande raison pour laquelle vous tournez le dos à ces forums?
Non. Nous n'avons pas besoin d'être là parce que nous avons déjà dit que ce forum qui est annoncé n'apportera absolument rien. Peut-être même plus que celui de la fois passée, qui a provoqué une séparation intercommunautaire en incluant, par exemple, la question de jurer avec les religions, par le Coran, pour pouvoir obliger la situation des séparations confessionnelles dont on a tant parlé, qui est une sorte de division. C'est les gens qui ne sont pas musulmans, ils n'ont pas à jurer dans l'ensemble du Coran.
Monsieur Younous, mais l'expérience a montré que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Est-ce que vous ne vous inspirez pas de cette expérience?
Non, la question de la politique de la chaise vide, c'est l'autre qui a eu sérieux. Si on partait, c'est plutôt avoir trahi les travailleurs. Parce qu'on sait bien que dans notre pays, depuis 30 ans, nous sommes là en lutte. Nous savons qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Nous, c'est pas la peine, parce que vous partez ou vous ne partez pas, et rien ne va changer. Vous allez dire des choses très bonnes, vous allez analyser, faire de bonnes analyses, avec de bons résultats scientifiques. Personne ne prendra en compte tout ce qu'on fait, c'est pour faire tout simplement alliance au président de Déby, qui va, lui, toujours se présenter comme le meilleur, comme tout ça. Tout récemment, il s'était décrété maréchal, et donc c'est toutes ces choses-là, toutes ces diversions que les gens, tous ces guignols autour de lui sont en train de lutter et lui très content. Mais puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de gestion normale. Tout est en déliquescence, monsieur.
Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina@channelafrica.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59. Notre adresse électronique farafina@channelafrica.org ou par SMS 00 27 833 81 56 59. Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde des affaires avec Joël Mouteba à la présentation.
Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé ce mercredi un second décaissement d'un montant de 156 millions de dollars, soit 86,2 milliards de francs CFA, au bénéfice du Cameroun, et cela dans le cadre de ses appuis financiers en faveur de la lutte contre la pandémie du coronavirus dans le monde. Ce décaissement effectué au titre de la facilité de crédit rapide porte ainsi à 382 millions de dollars, soit 211,3 milliards de francs CFA. En plus des besoins financiers auxquels fait face le gouvernement camerounais, ce nouveau décaissement est également consécutif à la satisfaction que le FMI éprouve face à la stratégie de riposte mise en place par le Cameroun dès le déclenchement de la pandémie sur son territoire en mars 2020. La Zambie vient de signer ce jeudi deux protocoles d'accord d'une valeur de 54 millions de dollars avec l'Union européenne. Ils permettront à Lusaka de mettre en œuvre des programmes visant à créer un environnement économique favorable aux investissements. Ce financement servira à mettre en place un programme de soutien à la gouvernance économique ainsi qu'un programme d'efficacité énergétique et de transformation durable de la Zambie. Les autorités de ce pays d'Afrique australe, minées depuis quelques années par une crise économique inquiétante, espère par ces conventions améliorer le climat des affaires et le niveau des prestations de services du gouvernement en faveur du secteur privé et des populations. Le secteur ferroviaire en République démocratique du Congo va connaître une cure de jouvence. Le gouvernement central, représenté par les ministères du budget, du portefeuille, des transports et des finances, a signé avec un groupe de sociétés de la République fédérale d'Allemagne un protocole d'accord de 25 milliards de dollars pour la construction et la modernisation d'infrastructures ferroviaires. Les fonds alloués seront principalement affectés à la construction et à la modernisation de 10 000 km de rails, dont 5 033 km déjà sous la gestion de la Société commerciale des transports et des ports, de la Société nationale des chemins de fer du Congo et les chemins de fer des Ouélé. Ce projet, étalé sur 30 ans, aboutira à la connexion des 26 provinces du pays par le rail. Resolute Mining, compagnie minière active dans l'exploitation aurifère en Afrique de l'Ouest, a publié ce jeudi ses résultats opérationnels pour le troisième trimestre de l'année, achevé le 30 septembre dernier. Les opérations au Mali ayant été perturbées début septembre par l'annonce de plusieurs jours de grève des employés de la mine d'or Siama, la production du groupe a baissé de 19%, passant de 107 183 onces d'or pour le deuxième trimestre à 87 303 onces au troisième. En effet, alors que la mine d'or Mako au Sénégal a maintenu ses standards habituels avec une production de 40 681 onces d'or, Siama, elle, a livré seulement 46 622 onces contre 63 705 onces au deuxième trimestre. Les ventes d'or ont en conséquence diminué de 18% en glissement trimestriel, passant de 110 660 onces à 90 900 onces. Il faut noter que la production totale de la compagnie pour les 9 premiers mois de l'année s'élève à 305 249 onces d'or. Rappelons que Resolute Mining, qui s'attendait à cette contre-performance, a déjà réduit ses provisions de production pour l'année. Elle vise actuellement une production supérieure à 400 000 onces, mais inférieure à l'objectif précédent de 430 000 onces d'or. Le fournisseur nigérian de solutions technologiques BCX annonce un changement d'identité de marque d'ici un mois. Le président directeur général de l'entreprise Ayo Adeboye a déclaré que tous les arrangements pour ce repositionnement stratégique de la société ont déjà été effectués. Il explique que ce changement de marque a pour but de relever de nouveaux défis, d'innover en termes de solutions et d'offrir un avenir plus grand. Le changement d'identité de BCX Nigeria est dans la continuité logique de l'acquisition de l'entreprise par des investisseurs nigérians en 2016. Le PDG de BCX Nigeria explique que la nouvelle entité, bien que désormais entièrement détenue par des Nigérians, continuera de maintenir une relation stratégique avec BCX Group et conservera également les meilleures pratiques mondiales qui en découlent. Il souligne que la société, qui est autonome financièrement depuis les 5 dernières années, est désormais mieux positionnée pour s'étendre à d'autres régions du pays, en plus de son siège social à Lagos et des bureaux régionaux de Port Harcourt et Abuja.
Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa.
Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za.
En Tanzanie, la police a annoncé que le pays a subi une attaque de l'État islamique dans le village de Kitaya à la frontière avec le Mozambique. L'attaque, qui a eu lieu la semaine dernière, a fait plusieurs morts et a été revendiquée par la branche Afrique centrale de l'État islamique. C'est un compte-rendu de Michel Kofi.
Selon le chef de la police tanzanienne, Simon Siro, l'attaque a eu lieu à Kitaya dans la région de Ntwara la semaine dernière, faisant état de plusieurs morts, mais il ignore le bilan exact. Il a ajouté que des suspects de l'attaque du 14 octobre dernier ont déjà été arrêtés. Certains sont des Tanzaniens qui coopèrent avec d'autres personnes d'autres pays et sont interrogés pour obtenir tout leur réseau. Siro a aussi souligné que les suspects sont membres d'un réseau terroriste qui a déjà tué en Tanzanie, notamment dans les édiles locaux en 2017 dans la région de Kibiti, dans l'est de la Tanzanie. Des policiers avaient également été tués dans cette zone l'année précédente, sans que les auteurs soient clairement identifiés, même s'il était avancé qu'ils venaient du Mozambique. La région de Ntwara, à environ 35 km à vol d'oiseau de la frontière tanzanienne, abrite des champs gaziers. La branche d'Afrique centrale du groupe État islamique avait revendiqué le 15 octobre dernier une attaque la veille dans la région de Ntwara, affirmant avoir tué et blessé de multiples éléments de l'armée tanzanienne sans autre détail. La province de Cabo Delgado, dans le nord-est du Mozambique et frontalière de la Tanzanie, est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste menée par un groupe surnommé localement Al-Shabaab, qui a fait allégeance en 2019 à l'État islamique. Pour rappel, en 2019, 6 Tanzaniens avaient été tués dans une précédente attaque dans la région de Ntwara, sur un îlot côté tanzanien d'une rivière marquant la frontière avec le Mozambique, d'où venaient vraisemblablement les assaillants. La crise a déjà fait, selon l'ONU et des ONG, plus de 2000 morts et 300 000 déplacés dans une région stratégique pour l'exploitation d'immenses réserves de gaz naturel liquéfiées. Des élections présidentielles et législatives sont prévues le 28 octobre prochain en Tanzanie. Kofi Michel pour Channel Africa.
Nous allons à présent parler du Soudan où une personne a été tuée et au moins 14 ont été blessés mercredi soir à Khartoum lors de la répression d'une manifestation contre la situation économique selon un comité de médecins lié au mouvement qui a entraîné la chute du président Omar El-Béchir. Les forces de l'armée avaient été largement déployées en prévision de cette manifestation. Des barricades et des fils de fer barbelés avaient été placés sur les routes menant au QG de l'armée, lieu d'un sit-in pendant le mouvement de contestation anti-Béchir en 2019. Plus d'une centaine de personnes ont scandé des slogans hostiles au gouvernement, brûlant de voitures selon des témoins. La police anti-émeute, qui avait fermé le pont du centre-ville, a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser le manifestant. Un protestataire de 20 ans a été tué par balle par la police dans la partie orientale de la capitale Khartoum. Les comités de médecins liés au mouvement qui a renversé l'ex-président a dénoncé une violence extrême de la part des forces de l'ordre et fait état des 14 blessés, dont certains dans un état grave, ainsi que des cas de suffocation en raison du gaz lacrymogène. Les manifestants dans la capitale Khartoum et dans sa ville voisine d'Omdurman avaient également demandé justice pour les personnes tuées lors du soulèvement populaire qui a renversé en avril 2019 le président Omar El-Béchir. Après sa chute, une autorité de transition composée des militaires et des civils a été mise en place pour préparer des élections. Elle fait face à une sévère crise économique et à une détérioration des conditions de vie dans un pays miné par le chômage et la chute de la monnaie nationale. Depuis la mise en place du gouvernement de transition, le dollar est passé de 50 à 240 livres soudanaises sur le marché noir, entraînant ainsi une hausse des prix considérable dans un pays qui dépend énormément des importations. En décembre 2018, le triplement du coût du pain décidé par le gouvernement de l'ex-président Omar El-Béchir, aujourd'hui arrêté et jugé, avait été le déclencheur de la révolte populaire qui l'a écarté du pouvoir. Page santé dans ces magazines avec la pandémie du COVID-19 qui a ajouté une urgence supplémentaire aux problèmes mondiaux actuels tels que le changement climatique, la perte des biodiversités et les inégalités. De nombreux experts ont souligné l'importance de non seulement renforcer les systèmes sanitaires et les économies, mais aussi de rendre les écosystèmes plus résilients. Les forêts et les communautés forestières ont également été fortement impactées par la pandémie. Néanmoins, bien que fragilisé, le secteur peut également contribuer aux efforts de relance après la pandémie en fournissant par exemple des moyens d'existence aux communautés rurales et en soutenant les marchés locaux. Sheila Wertz-Kanounikov, experte en gestion des ressources forestières, explique pourquoi le secteur doit jouer un rôle clé dans les stratégies de réponse face à la COVID-19.
Les forêts, notamment tropicales, sont riches en biodiversité et donc une source importante de pathogènes qui pourraient potentiellement être à l'origine des maladies infectieuses émergentes. En même temps, ces forêts ont également une arme secrète dans la lutte contre l'apparition de ces maladies. Alors tant qu'ils sont non ou peu perturbées, elles agissent comme un tampon contre la transmission de maladies entre les animaux et les humains. La situation bascule lorsque les activités humaines perturbent cet équilibre, que ce soit par l'exploitation forestière ou la déforestation. Par exemple, la recherche sur le virus Ebola a démontré que l'infection humaine apparaît en moyenne 2 ans après le défrichement des forêts. L'exploitation forestière augmente aussi le risque de transmission et donc la propagation des zoonoses, que ce soit par la fragmentation des habitats de la faune ou par l'ouverture de routes qui facilitent la chasse dans des zones jusqu'ici inaccessibles. Il est donc essentiel de maintenir des écosystèmes forestiers et agricoles sains et diversifiés afin de prévenir de nouvelles maladies.
Comment la pandémie du COVID-19 a affecté le secteur forestier?
Alors tout d'abord, la pandémie du Covid-19 a entraîné une baisse significative des exportations de bois vers les marchés étrangers et ainsi une réduction de revenus d'exportation pour le pays producteur. Et comme la majorité des opérateurs forestiers étant dépourvus d'accès aux prestations sociales, cela s'est traduit par une hausse de chômage, de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. Et enfin, bien que les exportations aient chuté, la pression sur les forêts s'est accrue, comme en témoigne la hausse des incendies, de l'exploitation illégale et de la déforestation.
La pandémie a mis le secteur à l'épreuve, mais ce dernier peut également offrir une multitude de solutions aux problèmes résultants de cette pandémie. Quelles sont justement les contributions immédiates que peut apporter le secteur forestier dans la réponse face au Covid-19?
Les produits forestiers ont joué un rôle essentiel dans la réponse immédiate au Covid-19 en fournissant les matières premières nécessaires aux produits sanitaires et équipements de production individuelle, tels que par exemple l'éthanol utilisé dans les désinfectants ou le papier des masques respiratoires ou des emballages beaucoup plus nombreux. C'est pourquoi, afin de maintenir un approvisionnement continu de ces produits, le secteur forestier a été reconnu dans de nombreux pays comme un service essentiel. C'est le cas par exemple au Gabon, où les opérations forestières ont pu ainsi continuer malgré le confinement. Et enfin, pour les communautés rurales, la forêt reste également une source clé de nourriture et de moyens d'existence qui renforcent leur résilience aux chocs tels que celui généré par le Covid-19.
Comment la FAO soutient le secteur forestier et les communautés dépendantes des forêts tout en faisant la promotion de solutions forestières pour remédier aux impacts du Covid-19?
Alors nous travaillons aussi bien avec les organisations de producteurs forestiers qu'avec les communautés rurales dépendant des forêts. Par exemple, dans le cadre du programme de gestion durable de la faune sauvage, nous travaillons à sécuriser l'utilisation durable de la faune par les communautés locales et autochtones pour renforcer leur résilience tout en veillant à maintenir la diversité faunique et ainsi l'équilibre des écosystèmes. Ceci nécessite d'améliorer l'hygiène et la sécurité des aliments issus de la faune en zone rurale, mais également de réduire la demande urbaine en gibier, qui est la principale cause de non-durabilité des ressources fauniques et un risque accru de dissémination de potentiels pathogènes issus de la faune en milieu urbain.
Alors, tout en contribuant à bâtir une société plus résiliente et durable contre le changement climatique, la perte de la biodiversité et l'émergence de maladies infectieuses telles que le Covid-19, quelles sont les opportunités à saisir pour le secteur forestier qui pourraient perdurer après la pandémie du Covid-19?
D'abord, profiter de la prise de conscience mondiale actuelle pour mettre un terme à la déforestation, à la surexploitation des ressources forestières et à leur dégradation.
Envoyez-nous vos notes vocales sur WhatsApp au +27 76 300 33 27. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre page Facebook Channel Africa ou encore sur Twitter @ChannelAfrica1. Channel Africa, la perspective africaine.
Nous passons tout droit au tour d'horizon de l'actualité sportive en Afrique que nous présente une fois de plus Michel Kofi.
Bienvenue à cette page sportive. La demi-finale retour de la Ligue des champions africaines entre le Zamalek d'Égypte et le Raja Casablanca du Maroc est officiellement reporté. Suite à l'apparition d'un cluster de Covid-19 dans l'équipe Rajaoui et à son placement en quarantaine, la CAF a pris la décision de reprogrammer la rencontre le 1er novembre prochain. Le président du Zamalek, Motada Mansour, s'était dit favorable à une telle issue. Dans son communiqué, la commission des compétitions de l'instance africaine du football a évoqué l'intégrité de la compétition et la promotion d'un esprit de solidarité. L'autre demi-finale retour entre Al Ahly d'Égypte et le Wydad Casablanca du Maroc se tiendra bien ce vendredi, tandis que la finale reste programmée le 6 novembre prochain. L'un des deux qualifiés aura donc un temps de récupération nettement plus court que son adversaire. La CAF n'avait pas d'autre solution à moins de donner aux Amalek le match gagné par forfait du Raja après l'apparition en son sein de 9 cas de COVID-19. Les hommes de Jamal Selami s'étaient vus retirer leur autorisation spéciale de quitter le territoire national et avaient été placés à l'isolement pour une durée d'une semaine jusqu'au 27 octobre prochain. La FIFA a dévoilé jeudi son classement des nations après les matchs amicaux disputés par les sélections africaines en début de mois. Si le trio Belgique-France-Brésil mène toujours la danse au niveau mondial, en revanche, un changement est à signaler sur le podium africain. Vainqueur du Nigeria 1-0, puis rejoint au score dans les dernières minutes face au Mexique 2-2, l'Algérie gagne en effet 5 places et double les Super Eagles pour s'emparer de la 3e place continentale. 30e nation mondiale et sur une série de 20 matchs sans défaite, le vainqueur de la CAN 2019 suit la Tunisie 26e et le leader sénégalais qui a perdu une place à l'échelle planétaire après sa défaite 3-1 face au Maroc 21e. Derrière le Nigeria et 5e nation africaine, les Lions de l'Atlas signent d'ailleurs une belle progression, eux qui ont gagné 4 places pour se hisser à la 39e position au niveau mondial. On signale aussi la montée du Burkina Faso qui a éjecté la République démocratique du Congo du top 10 africain. Pour le reste, l'Afrique compte toujours 3 représentants dans le top 30 mondial et 6 dans le top 50. Rendez-vous le 26 novembre prochain pour la prochaine édition. La Zambie a débuté jeudi sa série de matchs amicaux contre l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Pour son premier match, les Tipolo-Tipolo se sont imposés 3-2 contre les Antilopes de l'Éthiopie. C'est le premier match de Wubetu Abate, nommé récemment sélectionneur des Antilopes d'Éthiopie. Les deux nations se retrouveront dans 3 jours. Puis la Zambie affrontera également à 2 reprises le Soudan du Sud. Ces matchs entrent dans le cadre des préparatifs du CHAN 2020 et des éliminatoires de la CAN 2021 de football. L'attaquant ghanéen de l'Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus, sorti sur blessure face à Liverpool mercredi en Ligue des champions européennes, va devoir se faire opérer du genou. Le club néerlandais a précisé jeudi que le joueur touché au ménisque 3 va manquer plusieurs mois de compétition. Arrivé l'été dernier du FC Nordjylland, l'attaquant des Black Stars du Ghana avait réussi de très prometteurs débuts avec 1 but et 3 passes décisives en 4 matchs. Et enfin, pour terminer, Willy Boly peut enfin jouer pour la Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le juge unique de la commission du statut du joueur de la FIFA qui a autorisé le joueur de Wolverhampton à représenter les équipes de la Fédération ivoirienne de football avec effet immédiat. Le défenseur central des Wolves est courtisé par la sélection ivoirienne depuis longtemps, mais sa venue sur les éléphants était entravée par le fait qu'il a joué avec la sélection française des moins de 16 ans, moins de 17 ans et moins de 19 ans. Le sélectionneur ivoirien Patrice Baumel peut donc le convoquer au prochain rassemblement des éléphants de Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la CAN 2021 face à Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette page sportive. Merci de l'avoir suivi.
Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Kabisoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Restez connectés avec nous à travers notre page Facebook Channel Africa 1. Faites-nous des tweets à @FrenchFarafina ou encore à @Channel Africa 1. Vous pouvez également nous faire un WhatsApp au numéro 076 30 03 326 précédé de 0027, l'indicatif de l'Afrique du Sud, si vous nous écrivez de l'étranger. Merci et à la prochaine.
Suareba, ilimena fema.